Bienvenue pour ce nouveau podcast de Perdusa, consacré cette actualité à la fin de la saison télé américaine. Pour en parler, j'ai autour de moi Lisa.
Bonjour.
Blackie.
Bonjour.
Guise.
Bonjour.
Tigrou.
Bonjour.
Et Gégé.
Commençons, c'était naturel. Commençons par une série emblématique de Perdusa, Gilmore Girls, qui vient de s'achever il y a quelques jours sur la CW. Lisa, alors cet ultime épisode de la série, de cette ultime saison.
L'ultime épisode en lui-même était pas extraordinaire, pas mauvais non plus, mais pas extraordinaire. Ceci étant, on a eu avant 3-4 épisodes qui étaient excellents, qui ont ramené beaucoup de la fraîcheur initiale de Gilmore Girls avec la relation Lorelai et Rory qui revenait un petit peu à la normale, Lorelai qui se rendait compte que finalement, avec Luke, il fallait bien que ça se finisse. Ceci étant, moi
avec
le.
Avec Luke ou avec Christopher ?
Non, avec Luke, il faut que ça se finisse dans le sens.
Que ça se finisse bien.
Voilà.
D'accord.
Pardon. Et ceci étant, moi, le dernier épisode, j'ai un gros problème, c'est que. On ne voit Lorelai qu'en tant que mère. Tout l'épisode est tourné autour de Rory, donc. Jusque-là, c'est normal, c'est quand même le personnage qu'on a vu grandir. Ça permet de donner une possible suite, si jamais, parce qu'il ne savait pas encore à l'époque si ça allait être annulé ou pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on a du côté de Lorelai, quoi ? Une fin avec Luke qui dure 5 secondes, qui est tournée dans un plan super large. On se demande s'ils n'ont pas demandé à tourner séparément la scène.
Non, il paraît qu'ils s'entendent bien.
Ah mais le plan final, moi je trouvais ça plutôt réussi, puisque effectivement Luke est en retrait. Oui, il est en retrait, mais c'est parce que la série c'est Gilmore Girls, elle se termine sur les deux filles qui parlent comme au début.
Je parle de la scène du baiser en fait.
De la scène du baiser.
Où on les voit arriver tous les deux l'un vers l'autre, mais c'est pas du tout en plan large. Le plan final est en plan large, on les voit tous les deux s'embrasser bien évidemment, mais on les voit chacun arriver l'un vers l'autre, et c'est tourné d'une manière un peu bizarre, je trouve. Je trouve que c'était un peu symbolique, en fait. Maintenant, effectivement, le dernier plan de la série est parfait. Il n'y a rien à redire.
C'est une jolie boucle avec le pilote.
Voilà, avec le pilote, et puis avec les fins de générique depuis... depuis...
Toujours,
je crois. Ouais. C'est vrai que je m'étais toujours dit que c'était comme ça qu'il fallait finir la série, ils l'ont fait, et c'était vraiment une très très belle fin, pour le coup.
Mais quand tu dis on voit un peu trop Lorelai en tant que mère, en même temps dans le pilote c'est un peu ça, c'est Lorelai est une jeune mère et ça tourne un peu là-dessus, donc peut-être aussi que c'est pour ça qu'ils ont, ils ont voulu peut-être faire une boucle aussi à ce niveau-là. Bon, en même temps ils n'étaient pas encore sûrs non plus que ce serait le dernier épisode, donc c'est un peu difficile de juger là-dessus.
C'est pour ça que je leur pardonne quelques écarts dans le dernier épisode, vu que les 3-4 derniers les 3-4 qui ont précédé était vraiment très très bon. C'était vraiment du grand Gilmore avec des beaux clins d'œil, avec des bonnes storylines, avec un fond derrière, avec des idées comme Rory qui quitte l'université pour aller trouver un boulot mais qui n'en trouve pas parce que elle a toujours été pourri-gâtée, et ça fait du bien un petit peu de voir que tout ne lui est pas dû. Et puis le côté, finalement, les campus américains ne préparent absolument pas à la vie professionnelle. Quoi. C'est vraiment, on va s'éclater pendant 4 ans, mais la vie professionnelle, on verra après. Et j'ai trouvé ça assez... très très bon.
C'est vrai. Par contre, ils l'ont éliminé un peu facilement, je trouvais, Logan.
Ouais. C'était un peu parachuté.
C'était
hein.
un peu... Bon, bah c'est la fin, il faut absolument pas qu'elle finisse avec quelqu'un, il faut qu'elle reste célibataire pour la fin. Donc allez, on jarte. C'était un peu ça.
Alors c'est paradoxal, parce qu'effectivement, j'ai trouvé ça très parachuté, en même temps, j'ai trouvé ça très bien géré.
Oui, ils l'ont plutôt bien géré. Donc ça allait... ils l'ont bien amorcé avec les discussions avec Paris, et...
Et puis le côté tout ou rien de Logan, ça va bien dans sa personnalité. Enfin, ça reste quand même une espèce d'enfant gâté qui, s'il n'a pas ce qu'il veut tout de suite maintenant, finalement décide de passer à autre chose. Ouais. Ça, c'était plutôt pas mal sur la rupture de Rory avec Logan.
C'est pour ça
Logan.
Que c'était bien géré, mais effectivement, c'était un peu parachuté...
Moi j'ai bien aimé le dernier épisode, mais il y a quelque chose qui m'a crispé, c'est cette adulation, cette adoration de la ville pour Rory finalement, puisqu'on a vraiment l'impression que, enfin la fin où il y a une espèce de plan qui fait, où tout le monde applaudit, comme, alors, effectivement,
c'est l'enfant miracle.
C'est l'enfant miracle, pourtant ce qui me stresse c'est Miss Patty, elle donne des cours de danse à plein de gamines, donc dans la ville il y a encore des enfants, Rory n'est pas la dernière...
Alors, autant je pense que Luke a monté cette fête à la fois pour Lorelai, d'accord, mais aussi surtout pour Rory. Mm-hmm. Autant je pense que la ville également le faisait. Et d'ailleurs, Richard le dit, c'est aussi pour Lorelai. Je veux dire, c'est pas
non plus... sait qu'ils l'ont prise en affection quand elle a débarqué voilà. à dos, avec son gamin dans les bras.
C'est un petit peu les deux enfants de Star Solo, quoi. Donc, ça m'a pas...
Ça m'a stressé un tout petit peu, enfin, cette fascination de la ville pour une seule gamine.
Je pense que c'est ça, ouais, c'est le côté...
Elle nous saoule, donc on a du mal à comprendre pourquoi il continue à l'aimer.
Quoique dans la saison 7, elle m'a pas saoulée, mais effectivement, on se demande, après tout ce qu'elle a fait à la ville et à sa mère, comment est-ce qu'elle peut être considérée comme ça, comme l'enfant miracle, quoi. C'est ça qui...
Après, peut-être qu'Aster Zolo, c'est la seule qui sait lire et qui a fait des études, effectivement. Mais effectivement, ouais. pour un épisode qui n'était pas censé être un série finale, enfin, qui aurait pu, enfin, il ne savait pas trop, c'est plutôt très très bien géré. Ouais. On retrouve enfin des personnages qui ont des comportements qui sont tels qu'on les a aimés au début de la série. Parce que dans la saison 7 quand même, enfin, Rory et Lorelai étaient devenus ce qu'on redoutait qu'elles deviennent, c'est-à-dire juste les femmes d'eux. Enfin, elles se sont trouvées des mecs riches qui leur parlent assez mal, enfin... Logan pouvait être assez odieux à certains moments de la saison. Christopher était abominable et c'était assez tragique de voir ça. Enfin, cette saison 7, c'est quand même la destruction des Gilmore Girls. C'est bien qu'à la fin, elles reviennent comme on les a aimées, mais enfin, c'était une saison assez dure.
C'est probablement pour ça aussi que mon éternel côté féministe avait les nerfs à vif sur le dernier épisode avec Lorelai en tant que mère. C'est que, effectivement, pendant toute une saison, on avait... les deux femmes qui ont des copains et puis qui vivent en fonction de leurs copains, et puis on a une qui veut pas divorcer parce que bon, ça se fait pas. C'était pas très. Bonjour l'indépendance, quoi.
C'était en contradiction totale avec le point de départ de la série qui était justement une relation particulière entre une mère indépendante et une fille qui justement se construit à l'image de sa propre mère.
En même temps, on n'a pas tellement envie de voir Lorelai finir vieille fille seule. Qui ne vit plus qu'à travers sa fille après.
Non, justement.
Quoi. On a quand même envie de l'avoir trouvé l'amour.
C'est pour ça que la relation.
Ça ne veut pas forcément dire qu'elle va plus être indépendante.
La relation avec lui était pas mal, mais celle avec Christopher était super mal gérée.
C'était mal foutu.
Il la demande en mariage, elle ne veut pas se marier, elle le fait quand même.
C'était un grand motif de Gilmore Girls quand même. Comment une femme indépendante qui a tout, qui est indépendante émotionnellement, financièrement et dans sa vie avec ses amis, etc., va réussir à trouver quelqu'un et à construire quelque chose à deux. Alors qu'elle a déjà tout de son côté. Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Et ça a été complètement détruit dans la saison 7.
Dans la 6 aussi.
Dans la 6, un peu moins, je trouve. Parce qu'elle se rebellait et elle disait qu'elle n'était pas contente. Là, avec Chris, c'était devenu une guimauve.
Moi, j'ai vu ça comme un signe de maturité parce qu'ils ont fait en sorte que Christopher, qui était soi-disant plus mature, redevienne un sale gamin qui ne pense qu'à lui. Et alors qu'elle essayait de gérer son mariage, elle s'est dit « Bon, bah là, j'ai fait un pas en avant, je me suis mariée, il faudrait peut-être commencer à réagir comme une adulte, à essayer de régler les problèmes. » Quand elle est à l'hôpital, quand son père a eu sa crise cardiaque, elle lui dit bien au téléphone elle lui dit bien « Écoute, je sais qu'on s'est engueulé, mais tu pourrais être là pour moi, maintenant t'es de la famille. » Là, c'était plus dans le sens familial.
Le souci, c'est qu'il y a effectivement ça, je suis tout à fait d'accord. À côté de ça, elle le fait un peu coûte que coûte, quoi. C'est-à-dire que sous prétexte qu'elle s'est mariée, et il y a aussi sous prétexte que tout le monde lui dit que, dis donc, t'as 40 ans, il serait temps que tu commences à te caser et que t'arrêtes de ruiner toutes tes relations. C'est pas le cas, je veux dire, Lorelai a pas toujours été responsable de la faillite de ses relations. À cause de ça, à cause de son entourage, j'ai l'impression qu'elle va dans ce mariage un peu avec des œillères, quoi. Il faut le sauver, je le fais de manière mature, c'est vrai, mais il faut le sauver coûte que coûte, et puis tant pis. Et du coup, ça nous a donné une Lorelai triste pendant un an. Et c'est pas Gilmore Girls, quoi. C'est du punchy Gilmore Girls, normalement. Là, c'était triste.
Allez, une autre série qui s'achève, une autre série qui met en scène une jeune femme indépendante, c'est Veronica Mars. Les 5 derniers épisodes ont commencé à être diffusés sur la CW. 5 épisodes au goût particulier puisqu'ils ne s'incluent pas dans un long mystère qui courrait sur une saison, mais là ce sont 5 épisodes qui normalement sont des stand-alone. Voilà. Alors que pensez-vous de cette nouvelle formule de Veronica Mars qui de toute façon Ah, ça achève la semaine prochaine sur les deux derniers épisodes de la série, puisque la série est annulée. Tigrou.
Moi, je suis assez déçu, comme tout le monde, par cette nouvelle formule de Véronica Mars. Enfin, déçu, c'est un bien grand mot, parce qu'on ne s'attendait pas à des miracles quand on nous a annoncé que la saison était raccourcie et qu'en plus, il n'y aurait plus de mystère longue durée qui s'étalerait sur plusieurs épisodes. Je peux pas dire que la série soit devenue complètement mauvaise ou désagréable à regarder, parce qu'il y a toujours une qualité dans l'écriture, une qualité dans le jeu des acteurs. Le problème, c'est que sans le fil conducteur, sans ce fil conducteur des enquêtes, justement, qui s'étalaient un peu, qui étaient des enquêtes un peu d'ampleur sur des viols, des meurtres, etc., ben, je trouve que la série est un peu devenue un teen show, et un teen show pas super original en plus. C'est juste un teen show avec en plus une petite enquête dans l'épisode pour agrémenter le tout. Et par exemple, c'est vrai qu'avant, quand on avait une grosse enquête sur une saison, ça permettait d'inclure tous les personnages secondaires dans la série parce qu'ils participaient à l'enquête, alors que là, maintenant, il y a des scènes assez forcées où, par exemple, on va voir Logan, parce qu'il quand même, il est au générique, mais honnêtement, les scènes de Logan et de sa nouvelle copine sont assez catastrophiques. Enfin, on n'a pas du tout envie de voir ça. Véronica et Peace, ça va à peu près...
Oh non.
J'avais jamais prononcé en français, mais donc ça va à peu près, mais c'est pas non plus pour ça qu'on regarde la série. Et là, finalement, ils se concentrent beaucoup sur les couples avec des enquêtes qui en parallèle sont pas désagréables mais sont pas passionnantes non plus. Donc voilà, je suis pas spécialement triste que la série soit annulée, même si j'espérais un renouveau. Je suis juste un peu déçu que la dernière saison ait été massacrée comme ça, à la fois par la CW et par Rob Thomas.
Je pense que tu as trouvé le bon adjectif, c'est forcé. Tout est forcé. Les scènes entre Keith et Véronica, à part certaines, je les trouve forcées. Les scènes entre Logan et Véronica, n'en parlons pas. Quand tu dis que Véronica et Peace, ça va à peu près. Le teaser du 18e épisode... à se tirer une balle. C'était niais. Alors en fait, ils sont tous les deux sur un canapé et alors ils se font des papouilles et puis ils se bousculent un petit peu parce qu'ils sont amoureux, alors c'est rigolo, et puis après ils rigolent. Non mais c'était lamentable. C'était horrible, c'était mièvre. Mais
moi, j'ai été tellement traumatisé par Logan qui fait un gâteau avec une photo de lui par cœur dessus, et comme par hasard Véronica elle se retrouve avec la part ou la tête de Logan dessus, que j'avoue que les chatouilles sur le canapé, ça m'a même pas choqué. Pour qui c'est Véronique là, je trouve pas que ce soit forcément forcé, je trouve qu'ils ont de bonnes scènes dans le dernier épisode, ouais. Avec son test de détective qu'elle passe. C'est des bonnes scènes, mais le problème c'est qu'il manque quand même un fil conducteur, ouais. Un ciment. On regarde pas juste la série pour voir les personnages se faire des blagues entre eux, c'est pas une sitcom Véronica Mars.
Il manque le côté glauque des deux premières saisons, ouais. Le côté qui faisait de Véronica Mars une série différente, une série avec des adolescents mais différente, parce que c'était quand même assez rude la première saison. Elle se fait violer, il y a des traumatismes dans les deux saisons, enfin l'accident avec le bus et les lycéens qui meurent, c'est quand même des choses qui sont assez traumatisantes et qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les teen shows. Là, effectivement, les enquêtes sont assez banales. La résolution de l'enquête du 17e avec le musicien, où c'était « Ah, je suis con !» J'ai pris la mauvaise valise. Super. On n'est pas habitué, dans Véronica Mars, ouais, à ce genre de choses aussi triviales. Mais ça, enfin... Ça va être une série qui va malgré tout me manquer, puisqu'effectivement, il y a des dialogues, il y a des...
Il y a quand même une qualité d'écriture, hein, je pense, ouais. Que c'est indéniable. Si c'est un teen show, ça reste un teen show qui est quand même bon.
C'est comme toute série excellente, on peut pas accepter qu'elle devienne juste correcte.
C'est vrai. Mais pour moi, ça avait jamais été un teen show en plus, Véronica Mars, parce que finalement, les deux premières saisons, ça se passe au lycée, mais il n'y a pas les intrigues classiques du teen show qui sont je couche avec mon copain pour la première fois. Enfin, dans Véronica Mars, ça a été traité assez originalement, on va dire.
Juste comment elle s'appelle
Mac.
Mac, sa première fois, génial.
C'était pas vraiment sa première fois. Mais je trouve que justement, c'était typique ça, le côté première fois de Véronica. C'était typique de la série en elle-même, c'est-à-dire qu'ils ont traité la première fois de Véronica Mars, mais c'était super glauque.
Voilà, puis même, ils l'ont pas...
Ouais, mais il y a quand même c'est-à-dire, le côté Teen Show avec, bon, bah abordé, voilà, j'ai eu ma première fois, mais... Pas,
mais bon... Non, mais pendant deux saisons...
C'était annexe à l'enquête, en fait, comme
voilà,
souvent.
Les enquêtes secondaires ou même les enquêtes générales, leur but, c'était toujours de voir sous la surface, de voir la part sombre des gens. Et c'était ça qui leur donnait le côté noir. Qui fait que maintenant, c'est juste des enquêtes mignonnes, mais je veux dire, on découvre pas des choses incroyables sur les gens, sur la
en plus,
vie,
ça
sur l'humanité,
toujours bien.
Enfin... Ça n'a plus vraiment...
Et ça...
Ouais, c'est vrai, Thibaut, un point, c'est que ça finit toujours bien.
Dans le dernier épisode, oui. Ça se finit bien. Dans celui d'avant, le chanteur retrouve sa vocation. Dans celui encore d'avant... Je sais plus. Ah
quoi,
si, si, dans celui encore d'avant, bah, ça se finit bien entre guillemets, puisque les personnages sont tout contents d'expulser un méchant immigré qui n'est pas pour la guerre en Irak, donc il ne mérite pas d'avoir ses papiers.
Oh là là.
Non, puis surtout, il s'habille n'importe comment aussi.
En plus.
Il n'y a pas un jean
à adopter.
Allez, des séries qui se sont terminées, mais qui ont simplement terminé leur saison, qu'on va retrouver l'année prochaine. Commençons par ABC, on a Ugly Betty qui s'est achevé jeudi, on a aussi Grey's Anatomy. Et bah, commençons par notre amie qui porte des bagues, qui ne sait pas se coiffer, qui met des grosses lunettes. Bon, alors, tout ça, elle serait jolie, mais elle a mis une saison à ne pas s'en rendre compte. Bon, bref, Ugly Betty, vous en avez pensé quoi de cette fin de saison?
Moi, j'ai aimé, et toi, non.
Voilà, bah, je vais te laisser dire pourquoi tu as aimé. Et puis,
Moi, j'ai aimé, c'est vrai que c'était moins palpitant que l'épisode d'avant, mais j'ai trouvé qu'ils allaient encore dans la comédie ridicule avec, par exemple, le montage sur Memories de l'histoire entre Wilhelmina et Marc. C'était ridicule.
C'était
énorme.
Il y
avait plein de passages drôles. Ils ont fait encore dans l'extrême, dans le ridicule. Et finalement, c'est quand même, ils ont réussi à finir sur une note triste, avec un joli montage qui m'a fait pleurer, personnellement. Et oui, je suis
non,
très sensible. Je pleure pour rien, je peux même pleurer devant Smallville. Donc...
Moi qui pleure devant Melrose Place, là, je suis quand même assez intriguée.
Mais c'était quand même très émouvant, c'était sérieux, c'était triste, le montage était plutôt bien foutu.
Bravo.
Et le montage était bien foutu, et surtout je trouve qu'il y a quand même si on se dit que c'est pas possible, il y a un tout petit doute qui subsiste sur la mort de Santos. Parce qu'on ne le voit pas vraiment mourir. Bon, on comprend bien, ça paraît évident que c'est lui, mais, et on voit bien que c'est Lida qui pleure le plus. Mais on pourrait se dire, ah, peut-être que c'est le père en fait qui est mort, peut-être que Santos est juste blessé. Il y a quand même un tout petit doute qui persiste parce qu'on ne le voit pas mort.
Ah, c'est vrai.
Moi, j'ai...
Donc je trouve ça intéressant.
J'avais pensé à ça.
Au-delà de l'émotion.
Oui, surtout que dans cet épisode-là, on n'est pas revenu sur ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant, où il y a le père qui est au Mexique et qui rencontre le fils...
Oui,
du premier mari de la mère de Betty et qui dit tu devineras jamais qui est-ce qu'on a rencontré. Effectivement,
tu tiens ta revanche,
mais quand même, ça
serait...
parce que j'y ai pas du tout pensé. Effectivement, c'est le père qui est.
On a bien
ici,
fait
c'est...
de la recruter en fait.
Ce serait assez pourri quand même qu'on nous apprenne que le père est mort dans l'épisode d'après après un cliffhanger. Enfin, ce serait un peu.
Ah non, je trouve que ce serait pas mal, il serait tout à fait
bien.
C'est décevant parce que le passage est joli, mais j'aime bien.
Mais
le
surtout,
fait qu'il y a un
Betty
petit...
est pas, a pas du tout la réaction de quelqu'un qui apprend que son père est mort. Par contre, ce qui est possible, moi j'ai pensé que peut-être Santos était accusé d'avoir tué le vendeur du magasin, puisqu'il a toujours, il y a toujours des histoires
après,
comme quoi il était dans un gang et tout.
Ça me semble pas être une réaction un petit peu extrême pour moi.
Bah, on sait qu'il se fait tirer dessus, mais on voit pas s'il est juste blessé, peut-être qu'il a pris la faim.
Oui, c'est sûr.
C'est pas vraiment ce qui se passe.
Moi, ça me dérange pas qu'il meure, je suis pas fan du personnage.
Non, le pauvre déjà Drive a été annulé, là il a carrément plus de série.
Mais j'ai trouvé que c'était une bonne fin de saison finalement, avec des bons cliffhangers pour relancer un petit peu tout ça. J'ai trouvé ça vraiment pas mal.
Ben, moi je peux pas dire que j'ai pas aimé l'épisode parce que j'ai rigolé, il y avait des passages marrants. Par contre, en tant que season finale, j'étais un peu déçu parce que pour moi, un bon season finale, c'est quelque chose qui conclut les intrigues de la saison ou qui au moins conclut les intrigues de la dernière partie de la saison. Et là, au contraire, j'avais l'impression que tout ce qu'ils faisaient, c'était les prolonger pour faire un cliffhanger parce qu'il n'y a rien qui est conclu à part peut-être la relation de Daniel et de sa sœur slash son frère. Et du coup, même si l'épisode était bien, j'avais vraiment l'impression de voir l'avant-dernier épisode et je me disais... Et de me dire, ça prépare le prochain où vraiment tout va exploser, tout va être révélé. Et là, finalement, on a plein de cliffhangers et il s'est pas passé grand chose dans l'épisode. Surtout, la plupart des cliffhangers sont quand même assez prévisibles. Enfin, le coup de la voiture, c'est quand même le basique du soap que quand t'essayes d'assassiner quelqu'un et que t'embauches un tueur à gages, tu empruntes pas sa voiture qui va être piégée, ou le coup de la copine qui est enceinte, mais en fait c'est peut-être pas...
Justement, enfin, moi qui aime pas du tout les season finales avec des gros cliffhangers, dans Ugly Betty ça me dérange pas du tout, et même ça fait plutôt plaisir, puisque c'est une série qui oublie jamais que c'est une adaptation de telenovela. On a des gros rebondissements bien lourds, mais finalement c'est dans l'esprit de la série, ça fait partie de l'âme de la série, et justement, plus il y avait de cliffhanger, moi plus j'étais content dans ce série finale, enfin j'étais dans ce season finale, enfin, ce season finale est à l'image de la saison, enfin, les rebondissements sont plus gros les uns que les autres, mais les personnages restent attachants, enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. La seule chose qui me gêne, moi, c'est la découverte de la... des parents, enfin que
oui,
la secrétaire c'est
Amanda
et la fille de fée, et ce qui me stresse un peu pour la saison suivante, c'est que justement ce second rôle qui est parfait dans son second rôle prenne de l'importance dans le premier rôle, et voilà
qu'elle ait des sentiments d'un coup, quoi. Ça va être un petit peu étrange, je pense.
Bon, on a déjà eu
une
partie
revenir...
de la saison avec l'histoire de Daniel, et c'était plutôt réussi.
Ouais, c'était pas, j'avais pas accroché. Maintenant, juste pour revenir à ce que tu disais sur les cliffhangers que t'attends pas forcément dans Ugly Betty en tant que season finale, c'est que en fin de saison, ils pouvaient pas faire conclure des histoires. C'est ce qu'ils font pendant toute la saison. C'est justement la force de Ugly Betty, c'est qu'ils font plein de storylines, ils les résolvent, et ensuite, à la limite, en fin de saison, ils feront des cliffhangers pour changer de la saison. Mais s'ils avaient fait, dans le dernier épisode, des conclusions, je vois pas en quoi ça aurait été un season finale.
Moi, je trouve que la série va quand même très vite, et c'est justement une des forces de la série, c'est que justement, ils ont pas attendu 23 épisodes pour faire revenir le frère qui était censé être mort, ou pour révéler son identité. Et justement, moi, la plupart des intrigues étaient commencées déjà depuis 5 ou 6 épisodes, et je me disais, le season finale, c'est la bonne occasion de conclure, ou au moins de révéler un petit peu, de tout chambouler, et puis ensuite de faire des cliffhangers. Et là, finalement, les cliffhangers, c'était davantage des prolongations des intrigues, et j'avais pas l'impression que pendant 40 minutes, il y avait quoi que ce soit qui avait été résolu, ou que l'intrigue avait vraiment avancé.
J'ai l'impression que ça avait été résolu avant, hein, par exemple... Tobarès, je sais plus trop, là, celui qui est... qui est pas vraiment... Le designer qui est pas vraiment gay, qui sortait avec Amanda, ça a été résolu, ça, par exemple.
Ouais.
Donc on n'avait rien à conclure vraiment avec elle, ils ont juste engrangé autre chose.
Oui, mais à part ça... Enfin, je sais pas... J'ai pas détesté cet épisode, c'était un bon épisode, mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'il en manquait. Hein. Mais c'est peut-être parce que j'aime pas les cliffhangers, tout simplement.
C'est peut-être, t'aurais pas pu le dire plus tôt.
Non, mais moi j'aime bien, en fait, j'aime bien une fin de saison à la Véronique à Mars où tout est conclu et puis à la fin on te met quand même un cliffhanger pour te donner envie de revenir, mais j'aime pas.
T'aurais préféré des cliffhangers genre.
Non, mais.
Betty est à l'aéroport et elle attend son père et. Ah ben il vient pas.
Non.
Je pense que c'est vraiment pas dans l'esprit d'Ugly Betty.
Non, mais ils auraient pu faire plein de cliffhangers énormes tout en ayant conclu quelques storylines avant, mais...
Mais il fallait bien mettre les cliffhangers en place.
Bah, Wilhelmina, ça y est, va se marier avec...
Bah, il y aurait juste eu...
Quasiment.
On sait pas, ça
va
se
passer
au mois de novembre, il peut se passer...
Mais
je veux dire, ça y est, il a fait sa demande.
C'est justement ce qui...
Et puis, il n'y avait pas de scène vraiment entre Daniel et Betty, alors que c'est quand même un peu la base de la série, à part la scène où elle dit « Ouais, tu m'as encore déçu », comme elle lui dit depuis 5 épisodes. Et c'est aussi ça un peu qui
manquait.
C'est
que ça se termine sur, finalement, la sœur de Betty.
Oui.
Alors, effectivement, peut-être que c'est une intrigue qui inclut le père, mais la grosse intrigue sur laquelle se conclut la saison concerne la sœur de Betty. Ça, c'est effectivement un peu dommage qu'ils aient pas terminé sur soit Daniel,
surtout,
soit Betty.
Ils auraient pu faire une conclusion au moins sur le fait que Betty, elle travaille à mode, et pour montrer que depuis 23 épisodes, elle a évolué, que maintenant, soit elle s'est intégrée, soit au contraire, ça lui plaît pas du tout. Mais y a, finalement, l'intrigue de Betty, c'est un triangle amoureux, et puis les intrigues de sa famille.
On a eu un arc, quand
Betty,
même,
c'est pas le personnage central. J'ai l'impression qu'elle sert d'excuse pour tout l'univers autour, donc je m'en foutais.
Je pense déjà, et puis on a quand même eu un arc sur l'intégration de Betty à mode, avec Salma Hayek. Oui. Ça a été l'objet de tout un arc au sein de la saison, donc je vois
pas. Ouais, mais la dernière image de la saison, série, c'est Betty, n'est que la sœur de celle à qui il arrive des choses. Moi, elle est juste une sœur.
J'ai la même vision que Blackie, hein, c'est que Betty est une excuse pour.
Mais moi,
pour que tout ce petit
Betty.
Monde soit un petit peu chamboulé. Mais j'adore Betty au demeurant, mais c'est un petit peu une excuse pour.
Un petit peu.
Quoi?
Alors, elle aussi moralisatrice que Shonda Rhimes dans. Je sais pas, celle qui a écrit Grey's Anatomy. Qui s'est achevée. Enfin, non, la saison s'est achevée également ce même jeudi.
Je m'en vais, je n'ai pas vu.
Ah, tu n'as pas vu.
Va-t'en. Je n'ai pas vu les sourcils.
Donc, cet épisode qui conclut en gros toutes les intrigues initiées avec ce formidable triptyque du bateau.
Oui.
Alors, qu'en avez-vous pensé de cette fin de troisième saison de Grey's Anatomy et plus particulièrement de ce season finale?
J'ai jamais regardé un épisode, donc je ne vais pas vous aider.
D'accord.
Pour information, pour ceux qui prendraient le podcast en cours, c'est Guise. Il est toujours là. Il est toujours là, il parlera dans peut-être.
Moi, j'ai trouvé que justement, pour des intrigues qui avaient été commencées avec ce triptyque absolument horrible qui m'avait donné envie d'arrêter la série, et ben, le season finale était très très bien réussi. C'était vraiment un bon épisode. Alors là, pour le coup, les intrigues sont conclues. Toutes les intrigues sont conclues, ou celles qui restent en suspens, on n'a pas l'impression de rester sur sa fin parce qu'ils ont arrêté au milieu sans raison. Et l'épisode était assez réussi, c'était équilibré, il y avait un peu de drame, mais c'était quand même un épisode assez rigolo, avec notamment Sandra House en sourcil. Moi, j'avoue que ça m'a fait rire.
Mais j'ai une tronche d'extraterrestre, mais j'ai pensé à une espèce de pauvre série sur Canal+, avec des aliens qui avaient débarqué. Comment ça s'appelait? Conflit planétaire. Invasion planétaire. Ah ouais, elle ressemblait trop à un extraterrestre, c'était horrible. Mais... moi aussi j'ai beaucoup aimé ce. Ce qui est pas la plus. Par contre, dans sa robe de mariée, la vache, elle faisait 45 ans, Sandra O. Elle faisait super super vieille. Non, vous avez pas trouvé?
Non, je me suis juste dit, oh, pour une fois qu'elle est bien habillée.
Tout le monde dit, c'était mon intrigue préférée, la façon dont Burke interrompt le mariage, j'ai trouvé ça finement écrit, effectivement.
Oui. Moi aussi, j'étais agréablement surpris parce
qu'il se rend compte qu'il l'aime pas vraiment et que s'il l'aimait vraiment.
Il l'aime pas pour ce qu'elle
est. Il laisserait être ce qu'elle est, et justement, il n'aurait pas insisté pour avoir ce mariage-là. Je trouvais ça assez fort, puisque justement, tout au long de la saison, je me disais, mais quand même, Christina, franchement, ok, elle est super, elle est gentille. Elle se plie au désirata de son promis, enfin, c'est formidable, c'est un tout petit peu réactionnaire, mais bon. Et finalement, bah, j'aime beaucoup cette fin d'histoire. Et puis si en plus ça peut me dégager Isaiah Washington de la série, c'est parfait.
Ça, j'en suis pas sûr, mais... Non, mais effectivement, vu qu'on s'attendait tous à ce que le mariage se fasse pas, alors moi je me disais, soit le mariage se fera et je serais agréablement surpris parce que ça fait un peu 15 épisodes qu'on attend que Christina arrête. Soit c'était une bonne idée que ce soit pas Christina qui, de manière très prévisible, décide de pas se marier. Et c'est vrai que c'était assez touchant la fin de l'épisode.
C'est marrant, moi je m'y attendais pas. Je pensais vraiment qu'ils allaient jusqu'au bout. Qu'après, l'an prochain, ils traitent justement du mariage et de la compétition. Parce qu'ils n'ont pas vraiment traité de ça pour Callie et Georges. Ça n'a pas servi à grand chose, le fait qu'ils soient mariés.
Un personnage, moi je serais plutôt content qu'il parte de la série, c'est quand même Georges. Qui, depuis 10 épisodes, il sert vraiment à rien, il est toujours dans les intrigues les plus pourries, et fondamentalement, il commence à me taper sur le système, à être tellement malheureux tout le temps, parce que vraiment sa vie est trop trop dure, c'est-à-dire les deux bombes de la série sont après lui, et lui qui est tout moche tout petit, vraiment, non, c'est pas ça. C'est... Ouais, ça va. Et en plus, il est tellement tâche qu'il réussit à rater son examen.
Il a rien
pour lui, quoi.
De la Côte-Est.
Il a rien pour lui. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de physique. J'aimerais bien qu'il parte de la série.
Maintenant, c'est pas lui qui va partir, c'est Addison. Moi, ce qui m'a un peu. Le seul petit reproche que je ferais à cet épisode, c'est que, comme souvent dans Grey's Anatomy, on a l'impression que le thème de l'épisode a dicté les intrigues. C'est-à-dire que là, ils ont visiblement décidé de faire un épisode qui se terminait mal pour les relations de tout le monde. Pour Christina, c'était super bien. Meredith et Derek, de toute façon, il fallait bien les faire rompre parce qu'ils ne pouvaient pas rester ensemble jusqu'à la saison 8. C'est plutôt bien fait. Tout ce qui concerne George, ça va. Par contre, j'avoue que l'intrigue avec Alex, qui s'aperçoit évidemment au dernier moment qu'il est amoureux de sa patiente, alors que personnellement, j'avais pas du tout compris qu'il était amoureux de sa patiente. Addison était un peu plus perspicace que moi, et bon, pour lui aussi, ça se finit mal, et puis ça se finit aussi mal pour Bailey, mais c'est pas forcément très intéressant. C'est quelque chose que fait très souvent Grey's Anatomy, c'est qu'il décide du thème de l'épisode, et ensuite, il casse toutes les intrigues dedans, et des fois, il pourrait en laisser une ou deux de côté sans que ça nuise forcément.
Et là, le coup des expériences des patients qui reflètent aussi, qui donnent à réfléchir aux médecins. Là, c'était un peu lourd avec les alpinistes, là, où t'avais les médecins qui chopaient deux, trois de leurs discussions en disant « On ne laisse jamais quelqu'un derrière soi. » Il y a Georges qui entendait ça. Tu sais, il y a des alpinistes qui montent, ils sont congelés, et puis il y en a un qui donne un coup de hache à l'autre.
Ça m'a tellement pas marqué,
ça. Ça, je trouvais que c'était quand même assez lourd. Moi, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est la sœur de... qui nous colle une sœur à Meredith qui va faire des mêmes études. Moi, je trouve ça rigolo comme cliffhanger à la fin. Ça me donne vraiment envie de revenir en saison 4 juste pour voir comment elle va s'en sortir, la petite...
C'est typiquement le truc que Shonda Rhimes saura faire, c'est-à-dire faire coucher la sœur de Meredith avec tous les mecs du cast pour l'énerver. Donc ça, au moins, elle est sur son terrain, on est en terrain connu, ça sera bien. Et puis même le fait que le chief, finalement, il reste chief, alors que ça fait 3 ans qu'il nous saoule à chercher sa succession. Bon, c'était un peu nul, mais ça m'a pas dérangé, c'était pas si mal amené que ça, finalement. À part que finalement, il en nomme un qui veut pas, et du coup, les 3 autres vont démissionner. Addison, elle démissionne parce qu'elle est vexée de pas être nommée chief, j'ai l'impression. Enfin, c'est sûrement ce qu'ils vont faire.
Allez. Je suis sûr que vous êtes impatient d'entendre la voix de Guise. On va enfin lui donner la parole, puisqu'on va parler d'une mauvaise série. Mais bon, il faut bien qu'on entende parler. C'est How I Met Your Mother. Apparemment, ça s'est terminé. CBS a eu la mauvaise idée de la renouveler pour une 3e saison. C'est et n'a donné que 13 épisodes à New Christine. Et ça, c'est vraiment mal. Alors, How I Met Your Mother.
Il y a de la place pour tout le monde dans ce monde. Pourquoi est-ce que tu veux renvoyer des gens
chez
eux?
Non. Parce que maintenant, c'est dans l'air du temps.
Ah oui, c'est vrai.
Ah là, on s'est amusé, maintenant, quand des cons dégagent. Non, c'est pas vraiment ça qu'il a dit. Mais...
Alors, allez.
On enchaîne. Et puis ça, on pourra peut-être même le couper. Allez.
Oh. Ah ouais, Met Your Mother ?
Ouais. Donc, Met Your Mother, la saison 2 qui vient de se terminer, sur quelques épisodes plutôt agréables. Comme à peu près toute la saison 2, d'ailleurs, je fais partie des gens qui...
Non, ça, c'est pas vrai du tout.
Et ben voilà, donc il y en a qui sont pas d'accord, mais on est quand même plusieurs, je pense, à avoir aimé la saison 2.
Un épisode sur deux, pas plus, parce que moi, c'était mon problème, c'est qu'il y avait un épisode trop nul, donc j'arrêtais la série, et puis celui d'après, on me disait qu'il était bien, effectivement, il l'était, et puis le suivant... Non ?
Moi, je... J'ai beau détester Alison Hannigan dans cette série parce que je trouve qu'elle ne sert à rien et elle joue la facilité. C'est-à-dire qu'elle a la possibilité de faire du rôle de Lily quelque chose de bien, de rigolo. Elle se cantonne à la cutie de base, enfin ce qu'elle a toujours fait. Maintenant, moi je suis désolée, chaque semaine ça me fait rire.
Moi aussi.
Chaque semaine, quoi. Je trouve ça même super
plus,
drôle.
Même plus qu'en saison 1, parce qu'en saison 1, il y avait vraiment, enfin moi personnellement, il y avait que Marshall qui me faisait rire. Et là, notamment Robin, qui a pris un peu d'ampleur en saison 2, quand même.
Alors là, à la limite, je rejoindrais... je crois que c'était GG et Tigrou qui avaient dit ça il y a quelques semaines dans un précédent podcast, quand ils disaient que Robin était carrément plus cool que Barney. Finalement, j'étais pas d'accord à l'époque, mais je les rejoins maintenant. Ça, Barney bon, est très très drôle. Mais il reste très très drôle, mais je trouve qu'effectivement Robin a pris une ampleur beaucoup plus...
Mais quand il lui donne quelque chose, par exemple Robin Sparkles, c'est vrai qu'ils lui ont donné bonne matière, et elle était géniale, mais et des fois...
C'est un petit peu bancal.
Bon là, peut-être qu'elle va s'améliorer l'an prochain, parce qu'elle sera seule, elle sera plus dans son couple, ils n'auront plus besoin de traiter son couple avec Ted, donc...
Oui, ils traiteront certainement les restes du couple, parce que leur relation quand même dure un moment... Et puis on a vu...
Je suis même pas sûre.
Oui, ils ont l'air d'être...
De s'être séparés de manière très mature. Je pense que... Je pense pas que ça jouera véritablement sur la saison 3.
Mais ils se séparent dans le dernier épisode ?
Ouais.
C'est ça.
Ils réalisent qu'ils ont pas les mêmes attentes et du coup...
Enfin... Ils l'annoncent dans le dernier. parce qu'en fait,
oui,
ça a été fait avant.
Qui était très très bon d'ailleurs.
D'accord.
Ça va pas t'aider. Non, mais si on doit t'expliquer, fait, tout le monde va s'endormir.
C'est la limitation du concept de I Met Your Mother, mais finalement, ça fait quand même deux saisons qui font tout pour nous montrer que Robin et l'autre, là, Ted, sont faits pour être ensemble, et puis finalement, ils se séparent, ce qui surprend personne, puisque.
Oui,
alors c'était peut-être. J'ai pas vu l'épisode, donc c'était peut-être bien fait.
C'était très très bien fait.
Mais.
C'était très très bien fait, et je pense que pour apprécier I Met Your Mother un minimum, de toute façon, il faut passer outre le fait qu'ils se sont plantés dès le départ sur le concept même de base de la série, c'est-à-dire comment j'ai rencontré ta mère. Ils se sont plantés sur ça, maintenant, il y a beaucoup de séries qui ont fait la même chose. Il se trouve que là, ils peuvent pas vraiment s'en dépêtrer, donc ils sont obligés de le garder. Une fois qu'on a passé ça, je pense que c'est vraiment une très bonne sitcom.
Il faut tenir compte que cette année, ils se sont rendus compte en plein milieu de la saison. Les créateurs se sont rendus compte qu'en fait, l'histoire d'amour romantique, etc., ça ne marchait pas. Et c'est pour ça qu'après, on a une grosse cassure avec des épisodes un peu indépendants et très très drôles. Donc avec Robin Sparkles, le passage Dirty Dancing, etc. Ils se sont rendus compte qu'il valait mieux faire des conneries. Et puis là, que ça marchait beaucoup plus. Il faut espérer qu'ils vont
continuer. Au final, c'est toujours quand on se prend pas vraiment au sérieux que les choses deviennent bien meilleures. Comment c'est trop beau ce que je viens de dire.
Bref, il faut faire du ugly Betty.
Mais oui.
Bon, est-ce que Heroes se prend au sérieux en ce moment là ou pas? Heroes qui va terminer sa saison lundi.
Je crois que ça se prend complètement au sérieux, Heroes. Hein. C'est pas la série du second degré. Mais... Ouais. Ça fonctionne assez bien, en fait, dans Heroes. Bizarrement.
Ouais, c'est plutôt agréable à suivre toutes les semaines. Après, on attend le dernier épisode, mais je sais pas.
Il y a pas mal de pression quand même sur l'épisode, le prochain épisode, parce que ouais. Ça fait quand même une saison. Enfin, pour l'instant, c'était quand même assez bien maîtrisé. Il n'y a pas énormément d'incohérences. La série est assez dense et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils vont réussir à tout relier dans le dernier épisode. Alors de une, j'espère que ça va pas être un épisode où il se passe rien avec 15 cliffhangers à la fin, parce que là, No Heroes, ce serait vraiment décevant. Et de deux, faut espérer qu'ils avaient vraiment tout... Enfin, qu'ils arriveront à tout relier à...
Mais si, comme explosion problème. Il y a, qu'elle se passe pas à la 41e minute. Enfin, parce que ça fait 10 épisodes, enfin, qu'on attend plus que ça. Enfin, c'est-à-dire de voir comment vont s'enchaîner les minutes qui précèdent l'explosion de New York. Simplement, ce serait pas mal de nous épargner le fait que... Ah oh, New York explose, que va-t-il se passer? Qui est mort, qui n'est pas mort?
Ce surtout qu'on sait déjà si New York explose, puisqu'on a vu l'épisode du futur, donc ce sera assez...
Donc tu penses qu'ils vont réussir à empêcher l'explosion?
Je sais pas, mais s'il y a l'explosion, ça sert à rien d'en faire un cliffhanger, puisqu'on sait déjà qui survit, qui ne survit pas, en ayant vu l'épisode du futur.
Peut-être que des choses ont été changées.
Ouais, des choses ont été changées, tu sais...
Parce que Hiro va faire quelque chose...
Le machin du papillon...
Non, mais je pense pas qu'ils vont faire exploser New York dans Heroes. Ça m'étonnerait.
Moi j'aime bien aussi le truc genre save the cheerleader, save the world. Mais en fait, the world c'est juste Manhattan.
Oui.
D'accord.
C'est normal. Mais faut reconnaître que dans Heroes, c'est quand même. Autant l'ensemble de la saison, il y a eu des longueurs, des passages assez longs, des personnages qu'on avait envie de claquer. Autant depuis quelques épisodes, maintenant qu'ils les font tous se croiser, interagir entre eux, c'est quand même assez sympa à regarder, même très sympa à regarder. Tous les passages où ils se croisent, même si c'est souvent anecdotique parce qu'ils se voient dans l'ascenseur et finalement ça sert absolument à rien qu'ils se soient retrouvés, c'est, je sais pas, il y a... Finalement, comme ça fait 20 épisodes qu'on attend ça, on est content, on sourit devant son écran. Pareil, ils ont commencé à nettoyer aussi tout le casting de plein de personnages secondaires qui avaient été intégrés, qui servaient pas à grand chose. Parce qu'il y a déjà 10 fois trop de personnages dans Heroes. De une, ça complique la série et en plus ça empêche d'approfondir. Faut reconnaître que le méchant Sylar, c'est quand même. Enfin, sa personnalité, elle tient sur une feuille de papier cul, quoi. Ils ont essayé d'approfondir dans l'épisode d'avant, c'était assez pitoyable. En le montrant avec sa mère, il redevient gentil 10 secondes et puis il tue sa mère.
Et puis dans l'épisode d'après, il a. Après, je vais tout exposer. Alors qu'un quart d'heure après, il est là. Oh non, vraiment, je suis tellement malheureux, je vais devoir tuer tout le monde.
Ouais, non, mais ça, c'était assez.
Et surtout, l'acteur est de plus en plus mauvais. Et ses sourcils s'épaississent à chaque épisode. Non, mais il est vraiment catastrophique. Là. Dans Heroes,
il faut qu'il meure, ça, il l'air dans le prochain épisode.
Il est calamiteux, c'est la grosse erreur de casting de la saison, puisque sinon, globalement...
Globalement, les acteurs sont assez... Oui, sont assez corrects. Moi, j'ai du mal avec Jim Profit. Enfin, c'est aussi parce qu'ils lui font un rôle qui est pas forcément justement là. Il est censé être gentil, mais hésiter à être méchant, et ça fait 22 épisodes que ça dure, donc on aimerait bien qu'ils choisissent une bonne fois pour toutes, mais c'est. Je sais pas, je suis pas fan de ce qu'en fait l'acteur.
Donc on a pas grand chose à dire sur Heroes en fait,
là, ouais, on attend le final.
Elle est une série qui a déjà eu son final, mais il y a 2 mois. Non, peut-être 1 mois, une série qui est renouvelée. Une série qui sera diffusée le vendredi, comme le jour qu'il y a dans son titre, et que c'est beau cette phrase. C'est Friday Night Lights, dont on n'a pas parlé de la fin. Mmh. Alors, est-ce que ça vous a plu cette fin? Est-ce que vous étiez content que...
Non, c'était nul.
Est-ce que vous étiez content que nos gentils footballeurs... Tout le monde a vu...
Non, c'est lamentable si je me fais spoiler.
Oui.
Oh. Et là, Blackie vient de sortir le bouquin avec... Avec en couverture les personnages de la série, c'est-à-dire une réédition de poche, ouais. Formidable. C'est un beau cadeau, merci. Je suis ému. Bon alors, c'est ce dernier épisode pour une saison qui a été extraordinaire. Est-ce qu'il était à la hauteur de la qualité de la saison entière?
Moi je pense que j'en ai déjà assez parlé. Sans vouloir... De ce que j'avais pensé du final.
Bon. Ici, sur le podcast?
Non, pas sur le podcast, c'est
non, mais il y a des gens qui, justement, le podcast, ça sert à ça, ils ne savent pas lire, donc ils l'entendent, et ils vont être ravis de savoir ce que t'en as pensé.
Bah, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai été assez surprise, puisque comme j'avais vu le film, je me demandais, en fait, s'ils allaient garder l'histoire d'origine ou non, donc jusqu'au bout, j'ai été surprise.
C'est quoi l'histoire d'origine?
En fait, c'est une vraie histoire. Championnat d'État, ils perdent. Donc, je me demandais.
Bien, ça.
Et c'est assez tragique pour toute l'équipe qui mettait tous ses espoirs là-dedans. Et donc, dans la série, je me demandais s'ils allaient les faire perdre aussi.
Ce serait une vraie surprise qu'ils gagnent dans cet épisode-là. Et puis, en plus, enfin.
C'est pas vraiment une surprise, mais en même temps, c'est pas non plus déplaisant. De temps en temps, il y a des. On s'attend à ce qu'ils gagnent et on est content de voir qu'ils gagnent parce que
c'est
au
bout
de la saison.
Ils avaient perdu, on aurait été un peu...
On se demande, on se dit, ah oui, mais la série a tendance à tellement casser les clichés, s'ils gagnent, ça le serait, mais en même temps, on s'y attendrait pas à ce qu'ils gagnent.
Ouais, mais s'ils perdent, c'est déprimant.
Et pour moi, ça aurait été un nouveau, ça aurait été un nouveau cliché qu'on y croit jusqu'au bout, puis voilà, à la fin,
qu'ils perdent.
Là, j'étais vraiment surpris qu'ils gagnent. Le seul petit truc qui m'a surpris, c'est la blessure de Smash. Il s'est fait démonter un genou, je sais pas quoi, pendant... Et puis hop, on lui remet tout de suite après, et puis finalement, il court comme une gazelle et il fait gagner l'équipe.
Dans le film et le livre, c'est expliqué, c'est très très... C'est normal, ça se fait tout le temps, c'est quotidien pour les joueurs de foot.
On leur met des membres en place. C'est comme Boo qui explose un truc dans Survivor.
Exactement, ils ont mal, mais ils continuent. Quoi. C'est pas grave s'il y aura des séquelles après, qu'ils vont aller.
Mais là, c'était pas du tout exploité comme ça. Peut-être que ce sera
dans la prochaine saison. Mais ce serait un peu le genre de Friday Night Lights de lancer l'intrigue en un plan de 3 secondes dans un épisode, et puis ensuite de l'approfondir l'année prochaine.
Ce serait peut-être un peu répétitif avec
Jason. Ouais,
la blessure qui bousille ta carrière.
Ouais, effectivement. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est la grossesse de Connie Britton, et ça me fait très très peur.
Ça me stresse aussi.
Parce que j'étais super content qu'à la fin, quand le coach lui dit « Finalement, je vais rester avec toi » et tout, on se dit « Bon, bah voilà, c'est réglé, il part pas à son nouveau boulot, la saison 2 peut commencer. » Elles lui disent, vas-y, mais j'ai très peur que ça fasse The OCB, c'est-à-dire qu'ils vont, l'an prochain, ils seront tous les deux dans un état différent. Ils vont commencer tous les deux à revoir leurs ex et les anciens amours de leur vie, et ils vont séparer le couple phare de la série. Et j'espère, parce que.
Je pense que les scénaristes savent que s'il y a une qualité énorme dans leur série, c'est le couple.
On pouvait penser que The OC, ils le savaient aussi, et ça les a pas empêchés de. Mais j'en sais rien, faut faire confiance aux scénaristes aussi.
Non, moi aussi je suis hyper stressé par cette grossesse, et puis voir Coach Taylor qui fait un bébé et tout ça, machin, c'est tout. C'est mort. J'ai préféré que la série soit annulée.
Non, puis sinon, il se passait rien d'autre dans ce dernier épisode finalement.
Dis-toi, Stéphane.
Non, bah moi j'ai pas trop apprécié la physionomie du match, comme on dit dans le jargon, de se faire dominer complètement la première moitié du match et de complètement remonter miraculeusement en deuxième mi-temps. Ça, c'était peut-être pas trop du coup l'esprit de la série, de tout ce qu'on avait pu voir, notamment par rapport au film ou au livre, quand on les a lus, ça m'a un petit peu déçu.
Il y a quand même plein d'épisodes où ils perdent le match au début, où ils le gagnent au dernier moment. Enfin, ils ont dû perdre un match dans toute la série, et sinon à chaque fois ils commencent par perdre et finalement ils gagnent. Enfin, c'est pas non plus.
Il était surtout moins intense que le fameux match sous la pluie.
Ça, c'est vrai.
Ça a un peu perdu d'intensité par rapport à ça, mais en même temps, on peut pas. Ils auraient eu du mal à égaler.
Mais il y avait d'autres enjeux, donc ça m'a pas trop dérangé.
Landry à la Super Taïra, donc c'est bon, tout fini.
Oui, il y avait la scène dans la voiture.
Ah non, puis il y a quand même les deux filles, la brune, Layla.
La blonde, oui, Layla
et Taïra qui deviennent les meilleures amies de la Terre. Bon, c'est pas vraiment comme ça, mais ça m'a fait plaisir qu'elles se rapprochent. Oh, on a été bons sur Friday Night Live, ça, je vais dire.
Comme d'habitude, quand on parle d'une bonne série.
Allez, est-ce que vous avez envie de parler chacun à votre tour? On fait une annulation, un renouvellement, quelque chose qui vous a fait plaisir cette saison? Pas cette saison, est-ce qu'on peut parler d'American Next Top Model? Parce qu'évidemment, le cycle 8. Et parce que Taïra ne dit pas saison, elle dit cycle. Hein. C'est quand même Taïra le dessus des gens. Et donc, dans ce cycle 8... qui vient de s'achever cette semaine.
Ça fait 8 ans.
Ça fait 8 saisons, c'est-à-dire il y en a 2 par, deux par saison comme Survivor. La future Next Top Model. La future Top Model, qui sera jamais Top Model, hein, puisqu'en gros on n'a jamais entendu parler d'aucune des filles qui a gagné l'émission, mais en tout cas a été révélée. Ce mercredi, es-tu satisfait de la conclusion de cette saison qui était plutôt vraiment réussie cette saison?
Une saison très réussie, on avait vraiment des filles...
Des gros cas sociaux, hein,
voilà, on avait des cas sociaux. Mais pourtant, il y en a une qui s'est démarquée, c'était la jeune russe, et qui allait donc en finale, et c'était la finale un peu des étrangères. C'était pour la nouvelle top modèle de l'Amérique, elle était soit latine, soit russe, et évidemment, c'est la latine qui est sourde, comme tu disais.
C'est Delphine qui disait ça.
Qui a l'air d'être sourde, qui est bête comme ses pieds et surtout qui est moche.
C'est avec Ugly Betty.
Même pas Ugly Betty, elle a l'air d'une fille.
Elle a l'air d'un drag queen anorexique, quoi. En gros, c'est ça.
Même pas, j'ai vu des drag queens un peu plus féminines. Mais elle est affreuse et Taïra n'arrête pas de débiter. Tu n'es pas génial, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Et elle va vers la russe, tu es magnifique, tu es génial, tu ne fais qu'apprendre, que progresser. Bon, t'as pas gagné. Donc en fait, on se demande vraiment quelles sont les raisons.
Qui est-ce qui décide qui gagne? C'est le public ou c'est.
C'est
Taïra Banks toute seule.
Ah, d'accord.
Et donc j'ai vraiment pas compris parce que la russe était vraiment formidable. Elle a l'air assez déconnectée de la vie, des choses et des gens. Enfin, elle est assez spéciale, mais en même temps, elle disait tellement des choses gentilles, intelligentes. Quand t'as l'autre qui hurle, ouais, si elle gagne, je lui arrache les cheveux, elle fait des déclarations du style « Bon, bah, j'espère pouvoir être un modèle pour tous ceux qui se sentent étrangers en Amérique. » Enfin, des jolies choses comme ça. À jamais casser les autres. Et ça faisait plaisir d'avoir une fille aussi naïve, aussi gentille, et l'avoir se faire démolir au profit d'une horreur. Voilà. Je suis sûre que ça a intéressé beaucoup de monde.
Moi, je suis un peu déçu quand même que René n'ait pas été... Non, oui, parce qu'on va continuer quand même dans cette discussion de haute volée. René, elle est quand même jolie. C'est vrai qu'elle faisait un peu plus vieille.
Mais elle ne ressemble à rien.
Et puis son côté mère-fille, moi, c'est ça qui me stresse dans American Next Top Model. La moitié des gamines qui sont là, qui ont 20 ans, elles ont toutes 3 gosses. Moi, elles sont toutes célibataires. Vous voyez, ils se sont trouvés dans la rue, tout ça. C'est le ghetto, c'est l'horreur, American Next Top Model. Mais c'est super marrant pour ça. Et je pense que en français ce sera abominable parce que globalement l'accent qu'elles ont, enfin c'est vraiment les filles elles sont pas super finotes quoi. Et
ah oui, la russe avait un meilleur anglais niveau grammatical que les autres.
Et puis Taïra Banks, elle les reprend sur les verbes irréguliers et tout ça. Non, c'est super marrant. C'est assez trash. C'est assez intéressant.
C'est drôle, mais en même temps, c'est assez pathétique de voir ces filles.
Je crois que c'est pour ça que... Autant Survivor, autant Beauty and terrible. The Geek, c'est vraiment à part. On y... enfin, je pense que
ouais,
c'est
là,
pour
là.
Ça que j'aime. Autant là, je pense que j'avais tenté avec la version française, mais bon, c'était la version française. Et puis j'avais tenté sur la TNT, il y avait un programme de ce type-là qui... Mais alors, c'était vraiment... Ah non, je suis désolée, t'as une dent qui est moins blanche que l'autre, ton orteil dévite 3 mm, ça va pas être possible, tu vas devoir rentrer chez toi, ma fille, t'es complètement laide. Non, ça me...
C'est pas trop ça, enfin... Dans la...
Parce que j'avais vu, c'était vraiment ça.
Les Américains, c'est pas du tout sur le physique, ils doivent être trop politiquement corrects, pour que... Ça doit jouer dans leur choix, mais c'est jamais là-dessus. C'est des trucs genre, on sent que tu n'as pas le feu sacré pour devenir une top modèle. Putain,
Elle avait juste fait qu'il est trop.
Je fais 8 photoshoots à la con, je suis dans une piscine toute froide et t'as l'air bon que ça me vire à cause de ça. Non, enfin là c'est vraiment la télé-réalité
de base,
c'est-à-dire on aime parce qu'on se fout la gueule des candidats. Enfin, vraiment, c'est gros,
le truc que j'ai aimé, c'est que Tyra au début c'était la fierté parce qu'elle avait pris du poids et les tabloïds américains avaient fait tout un truc en la traitant grosse. Tyra était vexée et donc elle a dit je veux cette année avoir des candidates un peu plus rondes, qu'elle l'a jarté vite fait. Elle dit oui, il y en a marre de ces brindilles. Et qui est-ce qu'elle est élue comme top modèle?
Le squelette ambulant.
Voilà, le squelette. Qui n'a aucune forme, qui est vraiment laine, hein, même de la tête.
Voilà.
Bien. Vous avez dit des choses intelligentes jusque-là, vous avez trop aimé.
Donc voilà, Tyra, c'est. Elle parle beaucoup, mais alors après.
Allez, pour terminer ce podcast. Vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle les upfront, c'est-à-dire que les chaînes ont présenté leur grille de rentrée. Donc il y a des séries qui ont été annulées, des séries qui vont être mises à l'antenne. Ce que vous avez entendu, vous avez plaisir. Est-ce qu'il y a une annulation d'une série qui vous a fait plaisir, un renouvellement qui vous a fait plaisir, une nouvelle série que vous mourrez d'envie de voir ou pas?
Moi ça me déprime hein, cette rentrée. On a eu Gilmore Girls d'annulé, Veronica Mars d'annulé, Studio 60 d'annulé.
Oui, ça c'est quoi que vous en disiez
Moi j'attends de voir, mais je suis pas super emballée.
Mmh. Enfin, moi voilà. Je suis de ceux qui pensent que Veronica annulée va être technique.
Ah non, mais ça c'est sûr. Mais il n'en reste pas moins que pour la rentrée prochaine, qu'est-ce qu'on va avoir?
Smallville.
Ouais.
Ouais.
Mais non, parce que. Comment il s'appelle? Michael Rosenbaum, quelque chose comme ça?
Oui.
Part à la fin de la saison 7.
C'est qui ça? C'est qui Michael Rosenbaum?
Lex.
Lex Luthor. donc peut-être que dans la saison 7, Lex Luthor va devenir méchant pour de vrai?
Normalement, ouais.
Mais j'ai jamais vu un épisode de... Ah si, j'ai vu un épisode de Smallville pour la première fois cette année. C'était le truc avec...
Avec les
super-héros. Avec les super-héros.
Ah oui,
c'est le mec qui est chauve. Et qui aime beaucoup faire tisse. Oui,
forcément.
Plus. Voilà.
Donc voilà, donc moi je suis cynique et...
Moi je n'ai pas enthousiaste pour cette prochaine saison.
On verra.
Moi je suis pas du tout content que Private Practice ait été accepté par la chaîne parce que... Tout le monde a trouvé ça nul, les critiques américains, les gens qui regardent Grey's Anatomy, enfin c'était assez raté. Il faut dire que c'est Shonda Rhimes qui a écrit l'épisode.
Ah, l'horreur, ce truc. Il faudrait le prendre et ça pourrait être
une poule sur la fenêtre de GG.
C'est pas une poule, c'est donc un pigeon qui a dû cuire dans un. Dans un pot d'échappement et qui s'en est réchappé miraculeusement. On pourrait faire une série là-dessus.
Oh, ouais, je trouve une bouche. Il a une belle couleur pour un pigeon. Parce que le gris, c'est quand même assez banal.
Ah, oh, c'est ignoble. Bref.
Oui, bah, Private Practice, pour moi, ça ressemble vraiment beaucoup trop à Ally McBeal. Alors, je sais, ça fait 10 ans, mais j'avais vraiment l'impression de voir Ally McBeal chez les inséminateurs artificiels. Les personnages n'étaient pas super intéressants, même si les acteurs ont du potentiel. Mais on sait qu'un bon acteur dans Grey's Anatomy, de toute façon, il n'aura pas trop de matériel pour bien jouer, donc ça sert pas forcément à grand chose. Et voilà, je suis pas convaincu, je suis pas sûr du tout que je regarderai, et j'ai peur que ça contribue à affaiblir, enfin en général quand on fait un spin-off, ça affaiblit pas mal la série d'origine. Quoique là, si Shonda Rhimes travaille un peu moins sur Grey's Anatomy et qu'elle écrit moins d'épisodes, ça pourrait aussi être positif. Donc voilà, j'attends de voir, sceptiquement.
J'ai tendance à me dire que sur ce genre de série-là, faire 3 saisons, c'est pas forcément une bonne idée. Donc je me dis que si ça se trouve, ça va tuer Grey's Anatomy. On aura eu 2-3 saisons de Grey's qui auront été rigolotes à regarder. Et puis hop, on en a une nouvelle pour apporter un petit peu de fraîcheur là-dedans. Je me dis que ça peut être pas mal.
Tant qu'ils font pas trop de bien.
Pas non, très voilà, pour l'instant.
Je me dis que ça peut être une bonne idée. Mais bon, on verra. Hein. De toute façon, il y aura rien l'année prochaine.
Mais si, il y aura de toute façon la saison 2 de Friday Night Lights, en tout cas 3 épisodes avant qu'NBC se rende compte qu'ils voilà. ont des scores négatifs.
Non, mais c'est pas grave, hein. On regardera des anciennes choses.
De toute façon, il n'y a rien qui marche le vendredi soir. Donc, c'est ouais, pas la c'est peine de mettre une série.
Il y a des choses qui marchent.
C'est justement parce qu'il
y a The Ghost Whisperer, je sais pas quoi.
C'est ça.
Et Numbers. Où je résous des crimes avec des équations mathématiques.
S'ils attendent de rien au niveau audience le vendredi soir, peut-être que justement, c'était pour ça qu'ils ont mis là
le vendredi soir.
Parce qu'ils disent, bon, bah, de toute façon, on n'en attend pas grand chose, donc si ça rapporte pas grand chose au niveau audience, ce sera pas étonnant. Donc,
peut-être ouais. Je suis pas convaincue
là-dessus.
Le vendredi soir, c'est vraiment pas un.
Mais c'est un peu
un
stupide
bon jour.
Parce que ceux qui sont devant leur télé le vendredi soir, c'est ceux qui n'aiment pas le foot et qui vont pas au match.
Mais ouais.
Donc ils auront pas envie de regarder une série en se disant oui, mais c'est sur le foot.
Bah moi j'aime pas le foot et Friday Night Lights j'aime bien. Donc,
t'as jeté un œil déjà.
Ouais. Au foot ce...
Non, à la série. Ah, ceux oui. qui n'ont pas jeté un œil à la série qui voient juste que c'est une série sur le foot. Déjà ils sont pas partis au match, c'est qu'a priori ça ne les intéresse pas.
Sans vouloir dénigrer les fans de foot, je suis pas persuadé qu'ils apprécieront Friday Night Lights ouais. parce que c'est.
Oui, je pense pas non plus.
C'est quand même intelligent comme série.
De toute façon, dans les deux cas, oui, c'est vrai que c'est un peu.
Ça, c'est fait.
Allez, Guise, un petit commentaire sur cette saison, la oui. saison prochaine, n'importe quoi.
Bah, moi j'attends.
Bionic Woman, ça fait pas.
Non, pas trop, non. Mais moi plutôt le blog des comédies du jeudi soir d'NBC. De cette année, bah, qui est entièrement renouvelée, si je ne m'abuse, et qui est conservée. Mm. Donc, 30 Rock, Scrubs, The Office et My Name Is Earl. Et qui sont toutes les quatre plutôt agréables à regarder.
Scrubs
Sauf Scrubs, The Office et My Name Is Earl.
Voilà, non, The Office c'est bien, mais My Name Is Earl c'est génial.
Oh non.
Je parle pour Jus, c'est génial.
C'est très bien.
Tu parles pour Jonah aussi d'ailleurs. Oui, je parle pour nous trois.
Oh non. Mais bon, on a plus de temps de toute façon, c'est trop ballot. Donc on s'arrêtera en disant que My Name Is Earl, c'est vraiment un petit peu pourri.
Ouais, c'est tout pourri. C'est sûr, c'est formidable que va s'achever la première prise de ce podcast formidable.
Au revoir.
Au revoir.